et chère Juliette, je suis sûre qu'à l'origine de cet amour, de Nicolas,
avec l'Éternel, n'est-ce pas? Généralement, l'Église y amène quand on prononce ce genre de phrase. Mais pas à la Réunion. Ça, on fait ça ailleurs. Aux Antilles, à l'île Maurice peut-être, en France. Mais je suis tenté de répéter ma phrase. Il est bon de marcher avec l'Éternel. Amen. Répétez parce que vous avez la conviction, pas parce qu'on vous a dit, comme ça, il nous laissera tranquille. Parfois, je me demande jusqu'où le Saint-Esprit peut nous convaincre d'aller avec le Seigneur. Le Saint-Esprit. Pas nos parents, pas nos amis. Les jeunes, est-ce qu'il y en a qui sont venus à l'église parce que vous êtes venus pour rencontrer vos amis? Dénoncez-vous. Non? Oui? Il n'y a pas de mal à cela. L'église est un lieu social. C'est important. Mais est-ce que l'église, c'est-à-dire le moment de culte, peut devenir un moment où nous sommes totalement déconnecté du Seigneur? Impossible. Il y a toujours quelque chose qui nous rappelle, non, le Seigneur? Mais est-ce que quelqu'un peut être dans un contexte de culte et être dans le religieux et pas dans du spirituel? Oui, il y a un premier exemple comme cela. Prenez votre Bible avec moi. Alors, avant d'ouvrir la Bible, nous allons prier. Seigneur, nous voulons nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit pour que en ouvrant ta parole, nous soyons vraiment connectés à toi et que nous puissions non seulement recevoir tes instructions, mais les bénédictions qui en découlent, au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 4. Il y a deux frères qui vont au culte, à l'église. Bon, ce n'est pas encore bien construit, la chapelle, comme on dirait, dans certains contextes, ou l'église, le bâtiment, mais ils sont encore en plein air. Et celui qui passe pour le méchant qui prend l'initiative du culte. D'habitude, on pense que ce sont des gens parfaits qui vont au culte, n'est-ce pas? Mais c'est Caïn qui commence par offrir quelque chose à l'Éternel. Et ça, c'est formidable. Caïn, personne n'appelle son enfant Caïn aujourd'hui. Mais seulement, ce garçon nous donne comme une première leçon. Caïn fit une offrande de quoi? De fruits à l'Éternel. Alors on peut se demander, mais pourquoi il offre des fruits? Est-ce parce que psychologiquement, il est encore troublé par ce qui s'est passé dans le jardin? C'est-à-dire à cause d'un fruit, le péché est entré dans le monde. Et à cause d'un fruit, ses parents ont été expulsés du jardin. Si seulement par un fruit ou par des fruits, on pourrait, permettez-moi l'expression, rattraper la chose, peut-être ça pourrait changer quelque chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire résoudre le mal avec des moyens qui ressemblent un peu à ce qu'il a provoqué. Ce n'est pas éteindre le feu par le feu, comme les pompiers diraient. Mais seulement Est-ce qu'il n'y a pas là... Bon, les psychanalystes auraient bien étudié ça, mais comme je ne suis pas expert dans ce domaine, je me dis, il y a comme ça, dans l'inconscient, quelque chose qui pourrait parfois dire, laisse-moi essayer cette affaire-là. Les fruits. Mais Caïn va offrir, seulement il ne va pas être exaucé. Chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On a l'impression qu'il est en colère là, alors qu'il est à l'église, non ? Et ce n'est pas logique. Mais seulement Dieu remarque tout. Dieu lui dit, Caïn, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es mal levé ce matin ? Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Nathanaël, est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un à qui tu n'avais pas envie de dire bonjour ? Et toi, tu as un avantage. Comme tu es grand, tu peux regarder en haut. Je n'ai pas dit de haut, mais regarder en haut et faire comme si de rien n'était. Nath, quand vous lui parlez, il faut faire comme ça. Quand vous êtes petit de taille comme moi. Quand c'est comme Victor, ça peut aller. Pourquoi es-tu irrité ? Qu'est-ce qui peut te mettre en colère dans un contexte de culte ? C'est ça que Dieu est en train de demander à Caïn. Tu es d'accord avec moi ? Mais Caïn ne va pas répondre nécessairement. Il écoute. Au lieu d'adresser la parole à l'Éternel, le récit nous dit qu'il adressa la parole à son frère. Dieu n'a pas pu convaincre Caïn. Non, je reformule cette phrase parce qu'on pourrait penser que Dieu est incapable de faire certaines choses. Dieu ne convainc pas Caïn. C'est la parole qui vient de Dieu n'a pas touché Caïn là où le mal commençait à naître, à se répandre et à le ronger de l'intérieur. Mais Caïn pensait qu'il avait raison parce que sa logique était claire. Je viens, je fais une offrande à l'Éternel, Abel vient et fait une offrande à l'Éternel, Abel est exaucé, je ne suis pas exaucé, il y a une injustice. Paul, tu as déjà pensé que Dieu était injuste pour un moment ? Oui ? Ce regard de Caïn n'est pas si étonnant que cela. Parce que parfois, nous avons l'impression que nos prières, bien faites, bien formulées, ne sont pas exaucées. Et on ajoute, mais Seigneur, pourquoi ? Mais ici, Caïn ne répond pas à l'Éternel. C'est-à-dire, ce n'est pas auprès de l'Éternel qu'il cherche la solution au problème que Dieu soulève. Dieu soulève le problème. Pourquoi es-tu irrité ? Et ton irritation dit quelque chose. Mais Caïn ne cherche pas une réponse, ou on pourrait dire une solution auprès de l'Éternel. Il va chercher sa solution auprès de son frère. Pourquoi ? D'après lui, c'est son frère le problème. Parce que Caïn sait compter. Il sait compter. Un Dieu unique, on a l'impression une seule bénédiction. Mais deux adorateurs. Mathématiquement, il y a un problème. S'il y a une bénédiction et il n'est même pas dit moitié pour toi, Caïn, et l'autre moitié pour toi, Abel. Non, à 100% la bénédiction ou la réponse favorable de l'Éternel vient pour Abel. Logique, il y a un qui est en trop. Et Caïn développe ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une logique mafieuse. Que dit la logique mafieuse ? Quand quelqu'un représente un problème, tu le tues. En fait, tu l'élimines. Tuer, c'est fort, non ? Ça revient à la même chose ? C'est un bon synonyme, mais dangereux. Tu élimines le problème. Mais Dieu n'a pas dit ça à Caïn. Il dit, dis-moi, rentre en toi-même, réfléchis. Parce que tu pourrais arriver à quelque chose qui va te nuire. Et puis la suite du récit que vous connaissez, parce que vous l'avez lu des dizaines de fois, montre que Caïn va penser que c'est son frère qui est le problème et il élimine son frère. Ensuite, on comprend qu'il n'a pas écouté la voix, cette voix intérieure. Si tu agis bien, le péché ne dominera pas sur toi. Si tu as des pensées tortueuses, le péché dominera sur toi. Mais le problème, c'est que l'homme, des siècles et des siècles après, l'homme ne sait pas toujours poser le mot péché sur certains raisonnements. On pense que c'est justement un raisonnement, c'est une logique, c'est du bon sens, c'est quelque chose qui doit marcher. Et on se dit, mais avec ce bon sens que Dieu nous donne, pourquoi quelqu'un voudrait-il y trouver du mal ou du mauvais ? Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, mais Caïn pense qu'il agit bien. Si le point de départ, c'est une offrande à l'Éternel, on peut déduire qu'il s'agit de quelque chose de bien. Ou on pourrait dire autrement la chose, ce n'est pas si mauvais que cela. Et seulement Dieu, lui qui lit dans les cœurs et les pensées, a vu que les pensées de Caïn n'allaient pas avec ce qui se faisait. Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Où est ton frère Abel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et Caïn ne dit toujours pas à l'Éternel ce qui se passe. Voyez les dérives ou les excuses. Suis-je le gardien de mon frère ? Suis-je le gardien de mon frère ? Mais à partir de ce moment-là, l'Éternel va lui donner la parole qui fait mal peut-être. Verset 10, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait, Caïn ? Parce que si tu finis par me poser la question, suis-je le gardien de mon frère ? Tu es en train de me demander si je suis le berger du berger. C'est ça, la vraie question. En d'autres mots, il est assez grand pour s'occuper de lui-même ou réellement, qui est le vrai gardien des hommes ? N'est-ce pas toi, l'Éternel ? N'est-ce pas toi, Seigneur ? Pourquoi tu ne t'es pas occupé de mon frère ? Est-ce à moi que tu demandes qui est le gardien d'Abel ? Implicitement, peut-être de manière un peu ironique, Caïn est en train de dire, mais c'était à toi de protéger celui que tu as béni. Tu l'as bien exaucé, mais continue à le protéger. Pourquoi tu le cherches ? Tout à l'heure, tu l'as bien béni, tu l'as arrosé de ta bénédiction. Et maintenant, tu me demandes où est ton frère Abel ? Cherche-le toi-même. Cherche-le toi-même. Et parfois, on peut demander des choses à l'Éternel parce qu'on croit que l'Éternel a toutes les solutions entre les mains. Oui, c'est peut-être raisonnable de penser que Dieu a toutes les solutions entre les mains. Mais il y a des situations où l'Éternel nous met devant nos responsabilités. Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Cette question est ce qu'on appelle une question rhétorique. Dieu connaît la réponse à la question. Il avait posé la même question à Adam. Où es-tu ? Dieu pourrait-il ignorer où se trouvent ses enfants ? Mais Dieu voulait que Adam dise « Je suis ici ». Et Dieu voulait que Caïn dise « J'ai fait telle chose ». Parce que cela fait au moins 3-4 questions que Dieu cherche l'aveu de Caïn. On pourrait dire Dieu cherche appelons ainsi une forme de repentance, de reconnaissance ou de confession, ce qui parfois est difficile. Et qu'est-ce qui empêche cet aveu, cette reconnaissance ? Il y a 3 choses qui nous empêchent d'aller au Seigneur. La première chose, c'est l'orgueil. L'orgueil. D'autres réduisent cela en 3 lettres, moi, le moi, l'orgueil. Parce qu'on pense qu'on n'a pas mal agi. Et la deuxième chose, c'est la propre suffisance spirituelle. On peut penser que comme on n'a pas arrêté de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église, de chanter des cantiques, ben, finalement, tout cet ensemble pourrait contrebalancer la nécessité de nous repentir. Qu'as-tu fait ? Mais Seigneur, tu sais ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai besoin de te le dire ? Où est ton frère Abel ? Mais suis-je le gardien ? C'est toi le vrai gardien. Qui est le protecteur de l'humanité ? N'est-ce pas toi, Seigneur ? Pourquoi tu me demandes des choses qui sont évidentes ? Dieu passerait-il son temps à souligner des évidences dans notre vie ? Non, Dieu veut que nous sortions. Peut-être qu'il voulait appeler Caïn à cela, sortir de sa propre suffisance spirituelle. Parce que cela peut être dangereux. Si nous pensons que ce que nous faisons est suffisant pour que Dieu ne nous pose plus de questions, cela pourrait nous amener à une conclusion qui limiterait peut-être notre relation avec Dieu. Parce qu'après cela, Dieu va arriver à des propos propres au jugement. Parce que Dieu va lui dire, tu seras maudit de la terre. Jusqu'ici, Dieu donnait une chance renouvelée à Caïn. Mais voilà, verset 11, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn, maintenant, il fait un aveu. Quand il se voit au pied du mur, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Cette déclaration est une déclaration de peur. Caïn, qui a tué aujourd'hui, enfin en cet instant, il commence à avoir peur. Mais quiconque me trouvera, n'importe qui, le premier passant qui me trouverait, me tuera. Alors l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Caïn serait vengé? Mais pourquoi on devrait venger Caïn? En d'autres mots, Caïn rattraperait sa faute, mais de la manière la plus grande, c'est-à-dire comme si on lui donnerait ce qu'il mériterait. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il mérite? On pourrait dire, est-ce qu'il mérite un bien quand il a fait le mal? Seulement l'Éternel a pitié de Caïn et lui montre jusqu'au bout, jusqu'où il peut avoir pitié, même du premier meurtrier de l'histoire. L'Éternel mit un signe sur Caïn, verset 15, pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Et puis Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel. Et c'est là que l'histoire de l'humanité va prendre une direction assez curieuse. Parce que Caïn, et on va retrouver les enfants de Caïn au chapitre 6, quand les fils de Dieu vont se mélanger avec les filles des hommes. Alors, si on comprend bien l'interprétation rabbinique de ce texte, il ne s'agit pas d'anges qui seraient mariés avec les humains. Les fils de Dieu sont déjà de la descendance de Seth. Et les filles des hommes, comme si ce sont les filles de Caïn. Et ces mélanges-là, à un moment, j'avais une théorie qui disait que tous les descendants de Caïn ont été éliminés par le déluge. Mais après, je me dis non, à cause de ce mélange, la terre a encore plein de descendants de Caïn. Par les filles, par ces filles qui se ont fait alliance avec les enfants, les fils de Seth. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que si nous ne faisons pas attention, le mal peut se retrouver n'importe quand. Même si, comme Caïn, nous penserions que nous sommes loin de la face de l'Éternel. Mais quand nous lisons le psaume 139, nous voyons qu'il n'y a pas un endroit sur terre qui pourrait être qualifié loin de la face de l'Éternel. Même les îles Kerguelen ne sont pas loin de la face de l'Éternel. Le pôle sud, il n'y a pas d'endroit sur terre où nous serions loin de la face de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu veut toujours nous donner une chance. Dieu veut nous donner une chance. Et cette chance-là, Dieu la multiplie à travers toutes les occasions qu'il nous donne. Lorsque nous ouvrons sa parole, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui prie avec nous, lorsque nous entendons un chant, une musique qui nous apaise, lorsque nous participons à un groupe de prière, lorsque nous chantons, nous entendons un groupe chanter, lorsque nous voyons un témoignage de louange, de bénédiction, le Seigneur est en train de multiplier les occasions pour nous dire, voilà, quelque chose est possible entre toi et moi. Qu'est-ce que tu vas faire de cela? Maintenant, si dans l'attitude de Caïn, il y a comme cette volonté de ne pas attraper, saisir, prendre à pleine main l'occasion que le Seigneur donne de remonter la pente. Et le texte qui nous a été lu tout à l'heure, et je veux revenir avec vous dans cette lecture, dans Hébreux chapitre 6, le Seigneur veut nous sauver de nous-mêmes. Le Seigneur veut nous sauver de nous-mêmes. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous pourrions nous perdre tout seuls. Nous n'avons pas besoin des autres pour nous perdre. Nous pourrions nous perdre tout seuls. Et ce refus de repentance que nous observons chez Caïn. Et si nous prenons cet exemple, ce n'est pas pour nous attarder sur ce qui est mauvais, mais c'est plutôt pour tirer une leçon. Parce que quand nous lisons ce verset 4 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Cette déclaration ne devrait pas nous faire peur, mais elle devrait nous faire réfléchir. Réfléchir. Parce qu'il n'y a pas d'acquis. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit, un peu comme des sportifs, entraînez-vous, gardez la forme. Parce que si, par exemple, imaginez même les champions du monde, s'ils ne faisaient pas d'échauffement ou d'entraînement, la performance tomberait. Ils ne peuvent pas dire, ah, je me souviens, il y a 3 matchs, j'avais bien joué, je vais essayer de jouer comme ça. Chaque rencontre a son lot de défis. Chaque rencontre dit, allez, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Avec quelle force ? Je ne peux pas aller avec la force de la dernière fois. Quand le Seigneur nous dit, par son serviteur, attention, certaines personnes peuvent arriver à un stade où, même si elles ont marché dans le passé avec le Seigneur, mais si elles sont tombées et qu'elles n'écoutent plus la voix de l'Éternel, il leur est impossible de revenir. Ça pourrait être décourageant. Mais c'est plutôt une nécessité de prendre une responsabilité. Quand Dieu parlait à Caïn, il lui dit, qu'as-tu fait ? Mais Dieu n'a pas posé cette première question à Caïn. Il lui a demandé d'abord, pourquoi es-tu irrité ? C'est-à-dire, quels sont tes sentiments ? Quels sont tes sentiments ? Quelle est ta charge émotionnelle ? Moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que chaque jour, il s'adresse à moi pour me dire de revenir à lui. Il ne veut pas me lâcher. Il ne veut pas me lâcher. Parce que s'il y a une chose que Dieu ne veut pas pour l'homme, c'est qu'il tombe dans ce réflexe, dans ce syndrome de Caïn. Le refus de répondre à l'Éternel quand l'Éternel nous parle. Quand l'Éternel nous met devant notre réalité, le refus de répondre à l'Éternel et la tendance de chercher à chaque fois une excuse, une sorte d'échappatoire. Caïn ne répond pas à l'appel de Dieu. Et c'est pour cela que ce chapitre 6 donne cette occasion de réfléchir. Il est impossible. Alors cela veut dire que Dieu ne peut pas sauver quelqu'un à la dernière minute ? Que Dieu ne peut pas aider quelqu'un à échapper à une sorte de condamnation ? Dieu ne veut pas nous décourager, mais il nous dit, faites attention, ne jouez pas avec les choses spirituelles. Parce que si le cœur ne se laisse pas transformer, et ça a été un peu le problème de Caïn, je ne suis pas là pour juger Caïn, pour le condamner, j'apprends de cette expérience. Qu'est-ce qui a pu se passer pour arriver à ce point où même Dieu lui dit, oui, tu seras condamné là. Quand quelqu'un va te trouver, il va te tuer. Mais je mets une marque pour que tu sois protégé pendant un certain temps. Une protection provisoire. Parce que la grâce de Dieu couvre les bons et les méchants. Mais seulement, il y a un moment où Dieu dit, faites attention, parce que certains peuvent arriver à un point de non-retour, même s'ils évoquent Dieu. Dans cet espace de culte, Caïn était condamné, ou il se condamnait lui-même. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a non seulement donné son Fils unique, mais ce Fils unique a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le divin consolateur, pour que lui, il vous conduise dans la vérité, dans toute la vérité. Jean chapitre 16, je vous renvoie à ce texte que vous connaissez ou que vous pourrez découvrir à loisir. Le Seigneur veut nous donner une occasion aujourd'hui de nous remettre debout. Peut-être nous avons eu des occasions d'incompréhension, de malentendus. Mais cette Église a besoin d'avancer. Cette Église va avancer avec ceux qui veulent avancer. Et ceux qui regardent ont besoin aussi de répondre à l'Éternel. Pas aux hommes. Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi es-tu irrité ? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? C'était un peu ça la question que Dieu posait à Caïn. Dis-moi tes sentiments. Comment tu te sens? Je veux t'aider. Parce que Dieu lui a dit ça avant même qu'il ne fasse l'irréparable. Quelles sont tes émotions? Dans quel état te trouves-tu? Veux-tu te relever? Je suis prêt à te relever. Relève la tête. Relève la tête parce que c'est moi qui te dis relève la tête. Redresse-toi. Redresse-toi, mets-toi en chemin. Parce que parfois, nous pouvons nous laisser dévier par des choses qui n'ont aucun lien avec la parole de Dieu. On perd du temps. Il y a des personnes qui ne veulent pas venir assister à certaines réunions parce qu'ils disent « Ah non, ça, le Seigneur est contre ça, comme fêter un anniversaire, se souhaiter bonne année, etc. » On ne va pas passer notre temps à faire des querelles sur des choses vraiment triviales. Le Seigneur veut nous amener à l'essentiel, c'est-à-dire que son Saint-Esprit rassemble l'Église pour une nouvelle année. Pour une nouvelle année. Bientôt, il y aura des affectations pastorales dans cette fédération parce qu'on a changé, la triennale a constitué une nouvelle équipe. Quel que soit l'engagement que nous avons, il est important pour nous de continuer à marcher avec le Seigneur. Il est important pour nous de dire « c'est le Seigneur qui compte ». C'est le Seigneur. Nous avons tous un engagement. Et ce que j'aime avec ce Dieu, il est prêt à me relever et m'empêcher d'aller, de me retrouver dans cette situation où, comme si je suis là, mais je ne suis pas avec lui. Je ne suis pas avec lui. Je souhaite vraiment que cette année 2019 soit une belle année avec le Seigneur. Une année de progrès, de victoire. Peut-être de conciliation, de discussion, de dialogue. Quand il y a une question, allez voir la personne. La personne. Parce que Dieu veut de vrai face à face. Parce que Dieu veut nous aider à progresser. Moi, je veux progresser avec vous. Je veux, pour le temps de ma présence ici, je veux progresser avec vous, apprendre à travailler, réapprendre à travailler, remettre l'ouvrage 100 fois sur le métier, parce que Dieu veut nous aider à relever la tête. Parce que des filles l'Éternel. Et regardez ailleurs quand Dieu leur dit, regarde-moi. Caïn, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu dans cet état émotionnel? Lève la tête. Parle-moi. Dis-moi quelque chose. Moi, je veux te dire quelque chose, mais je veux que ça vienne de toi. Dieu ne veut pas parler à notre place. Dieu veut que nous ayons aussi le courage de nos convictions. La bonne nouvelle encore, c'est que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Laissons-nous attirer par le Seigneur. Parce que Jésus est le champion, toute catégorie, de toutes les victoires. Il n'y a pas une victoire qui serait impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois, je prie, tous les matins je prie pour nos églises, et je suis convaincu que le Seigneur nous amènera à certaines victoires. Mais ne freinons pas des deux pieds quand le Seigneur veut nous mettre debout. Quand le Seigneur veut nous aider à mettre un pied devant l'autre, ne freinons pas des deux pieds. Ne disons pas, non mais il y a encore ceci, il y a encore un tel. Le Seigneur veut nous libérer, veut aérer cette Église, veut lui donner une meilleure santé pour la gloire de son Saint-Nom, certes, mais aussi pour que cette Église devienne, redevienne la lumière que le Seigneur a placée dans cette ville. Dieu compte sur nous pour cette ville. Dieu ne compte pas sur la ville pour nous. Dieu compte sur l'Église pour que le monde soit éclairé par l'Église. Alors, parfois, certaines théories peuvent nous empêcher d'aller au Seigneur. Nous voulons mettre en place des actions pour la jeunesse. Il y a une classe baptismale qui a commencé. Il y a environ 8 jeunes qui fréquentent cette classe baptismale. Peut-être que tous les jeunes ne vont pas se faire baptiser dans 6 mois. Mais nous voulons, nous, leur donner l'occasion d'apprendre ensemble, de progresser ensemble. Pensez à cela. Priez pour ces jeunes. Quand nous rassemblons l'Église, la semaine dernière, nous avons eu une réunion pour réfléchir ensemble, non, il y a 2 semaines, pour réfléchir ensemble avec les nouveaux responsables c'était une manière aussi d'apprendre à marcher ensemble. Certains n'ont pas eu l'occasion de venir parce qu'ils étaient probablement occupés, mais quand d'autres occasions vont se présenter, remettons-nous ensemble, remettons-nous à l'ouvrage, parce qu'il ne s'agit pas des hommes, il ne s'agit pas du pasteur, de la fédération, il s'agit du Seigneur lui-même. Pourquoi es-tu dans cet état ? La réponse, Seigneur, tu connais mes états émotionnels, me voici. Je n'ai rien, moi, à t'offrir comme mérite, mais je peux m'offrir à toi pour que tu changes ma vie. Que tu changes ma vie. Et si tu changes ma vie, tu changeras certainement mon état d'esprit. Moi, je veux me consacrer à l'Éternel. Que l'Éternel nous aide à nous relever, à redresser la tête, parce que Dieu est un Dieu de victoire. La première victoire qu'il veut qu'on nous remportions, c'est celle sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Pour nous libérer de tout ce qui gêne. Alors que le nom de Dieu soit béni dans notre vie personnelle, dans nos foyers, dans nos familles, et que cette Église reprenne, retrouve la joie du service. On ne va pas vivre de bons souvenirs seulement. On doit vivre des expériences au quotidien avec le Seigneur. Parce que Dieu, notre Seigneur Jésus, est le champion de toutes les victoires. Alors que son nom soit béni. Amen.